Il est 19h, c'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 4 février 2026 et ce week-end, je suis allée voir. Personnes pour leur promettre de produire, de sortir de leurs conditions de victime. Un modèle bien joli et copié des Américains pour promettre des choses irréalistes. Alors derrière cette promesse digne d'un conte de fées, on y découvre ses délires sectaires, l'absence de sécurité émotionnelle, de consentement et surtout son manque de diplôme et de connaissances. Alors moi, en voyant ce film, j'ai vu des scènes que j'avais l'impression d'avoir déjà vécues. En fait, ça m'a rappelé que pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé avec certains d'entre eux. J'ai vu les coulisses d'un milieu que je croyais parfait, beau, alors que chacun tire sur les autres, que de toute façon, rien n'est jamais vrai, parce que tout est marketing de vente et que tout est une question de poudre aux yeux, de ce qui sera le plus impressionnant pour faire le show. Parce que ce qui est le plus important, c'est faire le show avec le plus de monde possible. Installer un climat de confiance, prendre le temps de comprendre la personne dans son ensemble et surtout que le professionnel de santé et de l'accompagnement soit responsable de ses actes, à quoi ça sert? Ce n'est pas si essentiel, ça sert à quoi au fond? Parce que ce que l'on veut, c'est de l'argent. Grossir, grossir, grossir. Et encore de l'argent. Vivre dans un monde de plus en plus capitaliste et libéral. Moi, je suis sortie de ce film sonnée et chamboulée de par ce que je venais de voir. Les scènes fictionnées sont bien réelles. Je les ai vécues et j'ai vu les coulisses de ces techniques de manipulation. J'ai vu les coulisses de ces techniques de vente dignes d'une propagande politique et de ces séminaires ressemblant à des concerts de Coachella. Alors je peux vous dire, ce n'est pas beau à voir. Mais oui, Coach Matt, sachez-le, n'est pas le seul et nombreux sont attirés par des séminaires à 10 000 euros plutôt que de faire des thérapies avec un vrai professionnel de santé. Dans l'entretien de la matinale et en première partie, on reçoit Thibaut Braque avec, pour le festival Ciné-Baltique qui sera interviewé par Alice. Ensuite, Anaïs nous parlera culture dans sa chronique Actu. Dans l'entretien de la matinale, Francesca et Hugo reçoivent Jérôme Martinez. On parlera avec lui du mal-être des agriculteurs et de l'épuisement de la pression sur leurs épaules. Ensuite, un flash info sera présenté par Raphaël et on clôturera avec Gauthier pour sa chronique humoristique. Vous écoutez la matinale, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bonsoir Thibaut Braque.
Bonsoir.
Vous êtes le programmateur du festival Ciné-Baltique qui met à l'honneur le cinéma estonien, letton et lituanien. C'est la deuxième édition de ce festival qui démarre demain, le 5 février, et jusqu'à ce dimanche, le 8 février. Les séances ont lieu au cinéma L'Arlequin, dans le 6e arrondissement. Et dans ce festival, on peut retrouver des longs et des courts-métrages de réalisateurices des 3 pays que j'ai cités précédemment. Alors peut-être pour commencer, je pense que ce cinéma est assez peu connu, en tout cas c'était le cas pour moi quand j'ai préparé cette interview, ou du moins il est peut-être un peu moins connu du grand public que le cinéma d'Amérique du Nord ou de l'Europe de l'Ouest en général. Qu'est-ce que le cinéma balte a de significatif ?
Alors bonsoir, merci pour cette interview et cette possibilité de présenter le festival. Donc c'est une question qu'on nous pose souvent, donc qu'est-ce qu'il a de significatif? C'est un cinéma déjà qui regroupe évidemment 3 cinématographies différentes, hein, ce sont 3 pays, mais qui s'allient aussi beaucoup dans l'approche culturelle qu'ils ont, dans les coproductions entre les différents pays. Et c'est assez vaste le cinéma balte, on pourrait dire qu'il y a une longue tradition documentaire, également une longue tradition du film d'animation. On l'a vu peut-être pour ceux et celles qui ont vu l'année dernière le film Flow, qui avait gagné justement l'Oscar. Mais bon, cette tradition de l'animation en fait a commencé aussi bien avant, justement en Estonie, en Lettonie, et elle commence aussi aujourd'hui en Lituanie. Et puis... on va dire que c'est un cinéma quand même qui est aussi souvent assez poétique, qui fait une grande place à la nature, aux questions existentielles. Et notamment, je fais le lien avec, si vous voulez découvrir en parallèle aussi de ciné baltique, actuellement, il y a aussi une rétrospective poétique balte, de documentaire balte, avec la BPI, et le Centre Pompidou. Et donc, ces rencontres ont lieu en parallèle de ciné baltique aussi, jusqu'au mois de mars.
Alors, ces 3 pays étaient sous la coupe de l'URSS jusqu'au début des années 1990. Aujourd'hui, quelle place prend l'héritage soviétique dans ce cinéma actuel, contemporain ?
Bah, disons que c'est en tout cas une place que l'on questionne quand on, par exemple, programme des films en fait plutôt classiques ou des films historiques. L'année dernière à Cinébaltique, on avait programmé un film qui s'appelait Laiton, qui s'appelait Quatre chemises blanches. Et dans ce film, justement, se traitait de la question en fait de la censure. Ce qui était marrant, c'est que c'était un personnage qui lui-même se faisait censurer, alors même que le film pouvait quand même montrer à l'époque, et c'est ça qui était très étrange, il a été censuré, mais il a quand même pu être produit et réalisé dans ce contexte. Donc, c'est-à-dire que l'héritage, il est critique, surtout, évidemment. C'est-à-dire que le cinéma contemporain, quand même, à la fois prend en compte cet héritage, mais également le critique, notamment vu la situation aussi contemporaine. On n'est pas sans savoir que la Russie menace.
On est donc sur la deuxième édition cette année. Si on a une deuxième, c'est que la première a été convaincante, en tout cas assez pour que vous, les organisateurs, décidiez d'en relancer une nouvelle. Est-ce qu'en deux, trois mots, vous pouvez nous expliquer ou réexpliquer pour ceux qui vous auraient écouté l'année dernière la genèse du projet et pourquoi vous avez décidé de finalement mettre à l'honneur ce cinéma à Paris depuis deux ans?
Tout à fait. Au début, il y avait l'idée justement de faire une place à ce cinéma Walt qui voyage en festival, dans les grands festivals internationaux, à Cannes, à Berlin, mais aussi de par le monde, le documentaire, la fiction. Et donc c'était vraiment l'envie de créer ce festival, puisqu'il y avait déjà en fait des festivals un peu amis, des festivals Walt à la fois à Londres, à New York, aussi à Berlin, et donc les centres du cinéma de ces trois pays voulaient un festival aussi à Paris, et ça a été aussi beaucoup initié par les ambassades des trois pays à Paris, notamment aussi Heike Heller, qui est conseillère culturelle pour l'ambassade d'Estonie, et qui avait ce projet depuis longtemps, et qui nous a tous et toutes convaincus, et qui est venu aussi me chercher, puisque moi j'avais par ailleurs déjà travaillé en programmation sur le cinéma européen avec le festival Premier Plan d'Angers. Ouais. Et donc c'est aussi à travers ce rôle de programmateur dans cet endroit que j'avais eu la chance de découvrir déjà un petit peu le cinéma balte.
Et est-ce que le public a été facile à convaincre l'année dernière et peut-être cette année, je ne sais pas si vous avez déjà enregistré des ventes pour le festival qui commence demain?
Il y a des préventes où effectivement on a commencé à lancer les préventes déjà il y a quelques jours en ligne. On peut tout retrouver sur le site évidemment de l'Arlequin, le cinéma l'Arlequin, mais aussi sur le site de Ciné Baltique. Donc n'hésitez pas à réserver vos places et à voir cette programmation. Ce qui est sûr, c'est que le projet à la base avait été pensé aussi pour avoir lieu peut-être tous les deux ans. Et en fait, il y a eu un tel engouement à la fois des communautés de Lituanie, d'Estonie, de Lettonie qui sont à Paris, puisqu'il y a ces communautés, mais pas seulement, plus largement par des cinéphiles curieux et curieuses, parisiens, parisiennes, et puis également aussi par des diasporas aussi d'Europe de l'Est qui plus largement en fait aussi de Pologne ou d'ailleurs avec cette curiosité pour le cinéma balte dans lesquels ils trouvent aussi parfois des similitudes sur aussi un vécu commun. Vous parliez aussi de pays qui ont été à un moment donné sous le joug soviétique, donc il y a des codes de cinéma peut-être en tout cas historiques qui se retrouvent aussi.
Le choix de cette deuxième édition, il s'est porté sur les grandes étapes de la vie, le rapport au lieu et la quête d'identité, des sujets qui sont majeurs et qui parlent normalement à tout le monde. En tout cas, beaucoup peuvent s'identifier et trouver une certaine résonance avec son histoire personnelle. Est-ce que c'est justement comme ça que vous avez pensé cette deuxième édition, dans le sens de rassembler le plus de monde possible et d'attirer de plus de curieux et de curieuses qui ne connaîtraient peut-être pas du tout le cinéma balte?
La programmation, elle se fait surtout par rapport aux films qui existent, parce qu'en fait, c'est quand même la volonté, c'est de montrer des films contemporains. Donc, on va montrer 6 longs métrages et 15 courts métrages. Et là, elle se construit autour de la qualité des films, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai la chance de dialoguer avec les 3 centres du cinéma directement, qui m'envoient aussi les films qui ont été produits les 2 dernières années, produits et réalisés. Et à partir de ça, l'idée, c'est de trouver en fait des films qui vont pouvoir probablement, en tout cas, c'est un pari, intéresser le public parisien, français, ou autre, ou en tout cas international. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des films que j'ai envie aussi de transmettre à un public, parce que programmer, c'est ça aussi. C'est avoir envie de montrer des films à un public et de les amener. On a la chance que les films soient accompagnés par les cinéastes, donc ça va être on va pouvoir questionner ces cinéastes. Mais c'est sûr qu'après, autour de cela, il y a des grandes questions. Et une des questions cette année, comme vous disiez, c'est aussi, et ça, je m'en suis rendu compte après coup, c'est comment on revient dans le lieu de son enfance. C'est aussi un lieu, un appartement que l'on rénove ou que l'on quitte, etc. Donc il y a une importance comme ça aussi qui est donnée au lieu dans lequel on vit, en fait, et aux souvenirs aussi qui nous accompagnent.
Oui, c'est vrai qu'en lisant un peu les résumés des longs métrages, des courts métrages, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose de très humain et à la fois très personnel, mais avec des situations pas si éloignées de nos réalités, comme si c'était un peu le fil rouge de l'édition. Et justement, en tant que programmateur de ce festival, est-ce que vous avez des critères un peu précis à respecter? Est-ce que vous avez un peu carte blanche ou on vous a donné quand même des choses à respecter?
Bah, j'ai une grande liberté, mais il y a une chose qu'il faut absolument que je respecte quand même, parce que c'est un festival aussi qui est co-initié et co-financé par les trois cinémas baltes, donc nous tenons, et je suis d'accord avec cette idée, à une équité, c'est-à-dire d'avoir à peu près le même nombre de films, c'est-à-dire deux longs métrages de chaque pays, et puis cinq courts métrages du coup de chaque pays aussi. C'est le seul critères que j'ai, et après voilà, j'ai une grande liberté. Après, je demande aussi régulièrement à mes collègues des centres du cinéma, ou à ma collègue Eike, ou mes collègues aussi autres attachés culturels, ce qu'ils pensent aussi de certains films, si eux ils ont entendu parler d'autres films, puisqu'il y a les films aussi que le centre du cinéma les centres du cinéma mettent en avant, mais il y a aussi d'autres films des fois qui sont autoproduits, donc ça peut être intéressant de prendre des conseils et de pas faire ce travail non plus trop en solitaire, quoi.
Alors, c'est très personnel, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit que la scène d'ouverture d'un film était très importante. Et alors justement, pour l'ouverture du festival, vous avez décidé de mettre en avant le premier long métrage d'une réalisatrice lituanienne, Gabrielle Urbonaitė.
Exactement.
Le film, il évoque le passé soviétique de la génération Y, donc ceux qui sont nés entre les années 80 et le début des années 90, donc encore sous période URSS. Et justement, c'est un peu à l'aube ou en concomitance avec la guerre en Ukraine, on en parlait un peu tout à l'heure, qui est toujours d'actualité. Le film d'ouverture, c'est pas un hasard. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir ce film-là? Qu'est-ce qu'il révèle de l'édition, de la deuxième édition?
Bah déjà, c'est un très beau film. C'est un film qui est absolument magnifique et qui est réalisé par une réalisatrice. C'est un premier long métrage, donc. Il nous tenait à cœur aussi de mettre en avant des cinéastes femmes, d'avoir aussi une forme d'équité dans le festival, et puis aussi de vraiment mettre en avant ce film qui nous a énormément touché, qui est un film très très personnel, qui effectivement aborde le prisme de l'histoire soviétique, mais à travers la rencontre entre une femme qui est chez elle, qui se pose beaucoup de questions, et sa rencontre avec un ouvrier ukrainien qui rénove l'immeuble. Et puis en fait, le film, je vais pas tout révéler, mais déjoue un petit peu les codes du film amoureux, puisqu'on a des attentes, et finalement se noue une forme quand même d'amitié entre les deux à travers des questions plus larges, à savoir évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi la poésie, tout ça avec un traitement de l'image absolument magnifique. Et d'ailleurs, on reçoit pour ce film, non pas la réalisatrice qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure, mais elle est à l'autre bout du monde en vacances parce qu'elle a accompagné le film pendant quelques mois à l'international.
Besoin de repos, oui.
Exactement. mais on reçoit un des acteurs principaux et également le chef opérateur, Vytautas Katkus, qui est également le cinéaste d'un film qu'on monte le lendemain, The Visitor. Et en fait, c'est aussi un des chefs opérateurs, on va dire, clés pour la nouvelle génération de cinéastes. Il travaille avec beaucoup de cinéastes différents, et on reconnaît une image, une approche de l'image très sensible qui va absolument avec le sujet du film. Et un film, franchement, quand même, qui parle de poésie de nos jours. Voilà, j'avais aussi envie de mettre ça en avant en l'ouverture.
Vous avez commencé tout juste à l'aborder, c'était ma prochaine question. Ce que je trouve intéressant avec le festival, c'est que vous avez souhaité justement mettre en avant des femmes cinéastes. Est-ce que vous savez à peu près nous dire comment est-ce que le cinéma balte, il se situe à ce sujet? Est-ce que, comme ailleurs, les femmes sont invisibilisées, ou au contraire, il y a un effort de ces trois pays de mettre en avant les femmes dans le cinéma?
Bah moi, il me semble qu'il y a un vrai effort contemporain. En tout cas, historiquement, moi, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas balte, quoi. Oui. D'aucune de ces trois nationalités. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le cinéma contemporain, il y a énormément de propositions et de films de cinéastes femmes absolument passionnants. Il y a encore, je pense que ça peut encore être évidemment amélioré. Mais nous, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant aussi avant tout des films de qualité, mais de faire attention aussi à montrer des films de cinéastes femmes, parce que j'ai bon espoir que pour ces prochaines années, parce qu'on fait aussi un petit focus cette année autour de la coproduction en lien avec le CNC, où il va y avoir ces trois prochains jours des rencontres entre des projets en développement de ces trois pays et également des coproducteurs français et françaises. Et on a beaucoup aussi de femmes cinéastes, donc de projets pour les années à venir qui vont émerger.
Alors malheureusement, c'est déjà la fin, oui. Mais est-ce que vous auriez juste une recommandation pour ce festival, personnel peut-être, ou un film à
manquer ? Un coup de cœur que vous avez eu peut-être ?
Oh bah, je pense qu'il faut venir tout voir. Je peux pas donner comme ça
voilà,
un coup de cœur.
Vous avez la réponse, voilà. Venez tous voir.
Ou alors venez aussi dimanche soir à la clôture, par exemple,
oui,
le film
voilà.
Estonien, contemporain, magnifique. Voilà.
Bah, merci beaucoup Thibaut d'être venu. Merci beaucoup à toi Alice pour cette interview. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Anaïs, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour Diane. Donc, je vais parler des rencontres nationales de la FEDE organisées par une association, donc la FEDE 100% en dynamique, donc, qui est une association à but non lucratif qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, particulièrement les jeunes de 18 à 35 ans, dans le milieu social ou professionnel. Chaque année, l'association, la FEDE 100% Dynamique, organise les rencontres nationales, un événement inclusif pour les jeunes en situation de handicap, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprenant des temps de formation animés par des intervenants en situation de handicap ou non, dans différents domaines tels que l'insertion professionnelle ou encore l'accessibilité des nouvelles technologies. Ces rencontres ont lieu 3 week-ends par an, généralement en Île-de-France, mais parfois en région. Les prochaines rencontres nationales auront lieu les 21 et 22 février pour celles et ceux que ça intéresse au campus de Paris-Saclay. Si vous souhaitez vous inscrire en tant que jeune en situation de handicap, accompagnateur ou encore bénévole logistique, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la FEDE 100% en dynamique. La date butoir étant fixée jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Et maintenant, on va passer à une pause musicale. On va écouter Undress de Sombre et on revient juste après. Écoutez Radio Campus, vous avez écouté Undress de Sombre.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et maintenant, c'est l'heure de l'interview avec Hugo et Francesca. Ils sont à deux, ils ne se quittent plus. Ce soir, on reçoit Jérôme Martinez. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous faites partie de Solidarité Paysan et ensemble, vous allez parler du quotidien des agriculteurs. Je vous laisse la main.
Bonsoir, Jérôme Martinez.
Bonsoir.
Alors, pour contextualiser un petit peu la situation des agriculteurs, comment décrirez-vous aujourd'hui l'état de santé mentale de nos agriculteurs et agricultrices que vous accompagnez au sein de Solidarité Paysan?
Alors, bon, on en parlera peut-être. Nous, on est une association qui accompagne les agriculteurs et agricultrices en difficulté. Donc, c'est vrai que ceux qu'on rencontre sont des gens qui, effectivement, rencontrent des difficultés. Donc, ce n'est pas sans doute la totalité du monde agricole, évidemment. Mais c'est quand même une part de plus en plus importante. Et c'est vrai que bah, même si on ne connaît pas le monde agricole, on avait entendu parler de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe régulièrement, des manifestations de colère qu'il y a à Paris ou ailleurs. Et on voit bien qu'il se passe quelque chose dans le monde agricole depuis longtemps, qui s'exprime bah, par des colères, des manifestations, mais qui est aussi beaucoup, pour une partie des personnes en tout cas, de désespoir, parce que c'est un monde qui a beaucoup changé très vite, qui est en difficulté encore aujourd'hui, et pour lesquels on n'a pas l'impression que les choses changent vraiment. Donc voilà, c'est pas un contexte qui est facile dans le monde agricole, avec quand même aussi pas mal d'espoir malgré tout, parce qu'il faut quand même avoir ça en tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le monde agricole, qu'il y a un enjeu important pour l'avenir de plein de choses, et donc voilà, donc c'est pas une situation très simple.
Justement, vous disiez tout à l'heure, on va en parler, donc Solidarité Paysan, c'est sur quel type de problématique que vous accompagnez justement?
Alors, donc, nous, on est un réseau d'associations, hein, on est présent dans 88 départements aujourd'hui, c'est un réseau qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui a été créé par des paysans, des paysannes qui avaient même rencontré des difficultés et qui ont voulu mettre en œuvre une action pour aider d'autres qui étaient confrontés aux mêmes problèmes et qui se sont constitués en réseau d'associations locales qui, en fait, se définissent comme une association de défense et d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est appelé par des paysans et des paysannes qui expriment des difficultés dans leur métier, alors qui peut être de tout type, hein. On en parlera, voilà, on peut détailler, rentrer dans le détail, je pense, qu'est-ce que c'est que les difficultés qu'on rencontre. C'est quand même beaucoup aujourd'hui des difficultés économiques, d'abord, c'est la difficulté à vivre de son métier, vivre dignement, avoir un revenu qui soit suffisant, à rentrer ça dans un volume d'heures qui est à peu près acceptable pour un être humain, dans un contexte où c'est compliqué, parce que le monde agricole, c'est un monde où très souvent les paysans ne fixent pas les prix des produits qu'ils fabriquent, donc c'est là la difficulté. Et donc, le moindre aléa économique, l'aléa des marchés, l'aléa climatique, l'aléa sanitaire, fait que bah, on se retrouve dans une situation où la situation est déjà fragile, elle devient très compliquée. Donc c'est vrai que c'est souvent l'entrée, c'est les difficultés économiques. Mais c'est pas que ça, souvent, derrière.
Et justement, quels sont les secteurs les plus touchés en agriculture par ce mal-être, par ces complications, ces difficultés?
Alors, il n'y a pas vraiment de domaine on peut dire qu'il est à l'abri des difficultés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde agricole, c'est un monde qui est plein d'inégalités, en fait. On a toujours l'impression lointaine que les agriculteurs sont un peu tous les mêmes. En fait, non, il y a des agricultures différentes.
Il y a des paliers.
Il y a des paliers, il y a des volumes, il y a des activités qui se sont très presque industrialisées. Il y a des énormes exploitations agricoles. Là, on est à Paris, en région parisienne. On sait que quand on va pas très loin, on voit des grandes plaines céréalières. On sait que c'est des grosses exploitations. C'est pas elles qui sont forcément les plus protégées, mais c'est des activités qui se sont suffisamment développées pour que le revenu soit suffisant. Mais après, il y a des filières, effectivement, qui elles sont plus en difficulté aujourd'hui. C'est tout ce qui va être élevage. Enfin, l'élevage bovin, notamment. Voilà, les vaches, vaches à lait, vaches à viande. En fait, c'est des secteurs dont on sait qu'ils sont sinistrés et qui sont en grande difficulté. Vous avez des grosses zones qui sont compliquées aujourd'hui, c'est la viticulture. Le monde du vin ne va pas bien. Dans plein de régions viticoles, il y a des grosses difficultés. Il y a le maraîchage, en fait, l'activité du maraîchage, dont on pourrait croire, a priori, que c'est celle qui s'en sort bien, parce qu'en fait, c'est des gens qui font pousser les fruits et légumes qu'on mange tous les jours. En fait, c'est des filières souvent qui sont compliquées, parce que, effectivement, ce n'est pas des grandes rentabilités. Il y a des problèmes souvent d'accéder à des terrains. Bref, en fait, c'est des activités qui ne vivent pas bien. Donc, il n'y a pas une uniformité, il y a des secteurs qui vivent pas bien, mais il y a aussi surtout des grandes inégalités. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui dans le monde agricole.
Et ces inégalités conduisent à des problèmes de santé mentale, c'est de ça qu'on parle aussi aujourd'hui. Pourquoi cette souffrance, elle est encore si invisible ou si minimisée?
Parce que déjà, je pense dans la société en général, on parle souvent pas très bien de ces problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est pas propre aux agriculteurs, mais c'est pas des sujets dont on parle très facilement. Et puis c'est un milieu qui est, d'une part, il y a de l'isolement parce qu'on est dans le monde rural. Donc c'est pas forcément des lieux où on a beaucoup de gens ou en tout cas moins qu'en ville pour parler de ces problèmes. C'est des milieux où sans doute on parle beaucoup moins de ces problèmes également parce qu'il y a voilà, il y a une forme de fierté quand on est paysan et on n'a pas forcément envie de raconter qu'on va pas bien. Donc tout ça cumulé fait que il y a plein d'autres vecteurs. Hein. On est souvent dans des zones agricoles où il y a peut-être moins de services sociaux, d'associations. Les services de santé ils sont plus éloignés. Il y en a beaucoup qui ferment. Donc en fait, on a beaucoup de gens qui sont en situation de pas avoir d'espace en fait pour exprimer leur mal-être. Et ça se ressent en fait d'autres manières. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que les gens nous appellent pour des difficultés économiques, mais derrière tout ça, il y a aussi des problèmes de mal-être qui s'expriment et qui sont renforcés par la situation économique. Quand on est en situation de pas bien vivre de son métier, on a l'impression de donner énormément de son corps aussi, parce que c'est un métier manuel. Et que par ailleurs, bah, effectivement, c'est un métier qui n'a pas forcément aujourd'hui une belle image, en fait, finalement. Malgré ce qu'on croit, c'est vrai qu'on a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'expressions, de choses qui se disent. Il y a une perte de sens dans le monde agricole. Et donc, tout ça cumulé fait que ça s'exprime de plein d'autres manières. C'est le corps qui lâche, par exemple. Le burn-out dans le milieu agricole, ça existe. Le burn-out, c'est un burn-out physique, mais ça peut être un burn-out mental. Ça peut s'exprimer aussi dans des problèmes personnels ou familiaux, parce qu'effectivement, en plus, souvent, dans l'agriculture, il y a quand même, c'est souvent un projet de couple ou un projet familial, en fait. Donc, si la ferme ne va pas bien, bah, parfois, le couple ne va pas bien non plus. Donc, tout ça se cumule, en fait, en réalité. Et donc, ça s'exprime par du burn-out, par des problèmes de santé, voire, effectivement, par des problèmes de psychologiques et du risque suicidaire, dont on sait que dans le monde agricole, il est beaucoup plus important que dans d'autres professions.
On parle de un suicide par jour, c'est bien ça? Est-ce que c'est un sujet qui a déjà été relevé auparavant?
Alors oui, ça fait... alors bon, nous, on est sans doute une association qui est un peu précurseuse, je ne sais pas comment on dit, de cette question-là. Il se trouve qu'il y a, je vous dis, Solidarité Paysanne, plus d'une trentaine d'années, et c'est vrai qu'on voyait dans les gens qu'on accompagnait qu'il y avait derrière des problèmes économiques, des problèmes vraiment personnels, qui étaient de l'ordre des questions de santé, en fait, et qui nécessitaient sans doute d'être réfléchis en tant que tels. Et donc, il y a presque plus d'une dizaine d'années déjà, on avait documenté, on avait fait des études, on avait travaillé avec des chercheurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ces problèmes de santé mentale, en fait, pas forcément un terme qu'on utilise nous, mais le mal-être. Et en fait, ça avait été déjà documenté. Puis ça a donné lieu à un certain nombre d'initiatives publiques. Il y a eu notamment un événement qui a aussi marqué un petit déclencheur, c'est un film. C'est le film d'Edouard Bergeon avec Guillaume Canet qui s'appelle Au nom de la Terre, qui était en 2018-2019, qui a eu un grand succès et qui racontait effectivement l'histoire d'un... Bah, en l'occurrence, c'était le père d'Edouard Bergeon qui a raconté son histoire personnelle de son père qui s'était suicidé en étant agriculteur. Et donc, ça avait en fait déclenché pas mal de choses. On est loin d'avoir résolu la question, hein, puisque ce taux de suicide il reste important dans le monde agricole, mais il y a une prise de conscience. Et c'est une prise de conscience des associations, des services sociaux. Il y a une attention plus grande aujourd'hui. Alors, on sait le détecter, on sait encore pas forcément bien l'accompagner, ça c'est sûr, mais disons qu'on a une relative prise de conscience. Et juste pour terminer là-dessus, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on travaille aussi avec des partenaires au niveau européen, c'est que dans tous les pays européens, il y a la même situation. En fait, cette situation de mal-être, de sur-risque suicidaire, en fait, et de santé mentale, il est existant dans toute l'agriculture, dans toute l'Europe.
Oui, cependant, c'est la France. La France est le premier pays, enfin le pays le plus touché, il me semble, justement par le suicide des agriculteurs.
Oui, alors on sait que c'est un pays qui est fortement touché. On ne sait pas si c'est le plus, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de pays où en fait, il n'y a pas d'études qui sont menées. En fait, il y a plein d'études. Moi, je parlais récemment avec des collègues en Espagne qui me disaient, en fait, on sait que ça existe, mais ça n'a pas été documenté en Espagne. Donc, on ne sait pas, en fait, en réalité. On sait que ça existe. En plus, souvent, mais c'est le problème dans tous les métiers, hein. Le burn-out, en fait, ça peut couvrir des situations graves de détresse, mais c'est pas forcément identifié comme du risque suicidaire. En fait, c'est pas parce qu'on est en burn-out qu'on va se suicider. Je suis désolé de dire ça un peu cash comme ça, mais en réalité, on peut pas détecter ça comme ça. Un accident de santé, un accident au travail, ça peut être plein de choses, et ça peut aussi être ça.
Et pour tenter de prévenir cela, justement, une proposition de loi visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole a été examinée à l'Assemblée nationale le 11 décembre. Comment vous l'avez accueillie?
On a été... alors, c'est en fait, cette proposition de loi, c'est la continuation et la confirmation d'un travail qui est mené depuis pas mal de temps. Et donc, on a plutôt accueilli ça d'une très bonne manière, parce qu'en fait, il se trouve que Le député qui a lancé cette proposition de loi, qui est un député de Haute-Garonne, en fait, on le connaît, on sait qu'il travaille sur cette question depuis longtemps, et il avait envie que, en fait, la loi aille un peu plus loin dans la protection et dans la mise en place de dispositifs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà des choses. Hein, il y a ce qu'on appelle les sentinelles, en fait, qui sont en gros des personnes qui, à titre bénévole, qui sont en lien avec des agriculteurs et qui se forment, en fait, à détecter les premiers signes de mal-être.
Donc, ils le font déjà.
Ça existe déjà, ce dispositif. C'est notamment la Sécu agricole, hein, qui s'appelle la MSA, qui est une autre caisse de sécurité sociale, qui font ce travail de détection. Et en fait, la loi essaye d'aller plus loin. Donc, nous, on a continué et on continue encore à travailler sur cette proposition pour l'améliorer. Pas uniquement pour avoir un dispositif qui soit efficace, mais aussi pour que ça ouvre des droits. Parce qu'en fait, il y a plein de choses derrière le mal-être agricole. Ça peut être pouvoir se faire remplacer, par exemple. Quand on est sur une ferme et qu'on va plus bien, c'est compliqué quand on est éleveur, par exemple, de se dire je vais arrêter pendant 3 semaines et je reviens pendant 3 semaines.
Les animaux sont toujours. Il y a des bêtes à nourrir, oui.
Donc, il faut avoir un dispositif pour remplacer les personnes. Il y a des problèmes qui peuvent être réglés sur des questions d'endettement, parce que derrière, souvent, des problèmes de difficulté d'agriculture, il y a beaucoup d'endettement. C'est une activité qui demande beaucoup de fonds, parce qu'il faut acheter des bâtiments, acheter des machines. Je veux dire, c'est pas simplement être devant son ordinateur qu'on a acheté. En fait, il faut investir énormément, donc il faut s'endetter beaucoup. Donc, de fait, si on s'endette beaucoup, on prend beaucoup de risques, et quand ça va pas bien, ça claque. Donc, il faut avoir des dispositifs pour accompagner ces personnes et faire que si elles ont besoin d'être accompagnées, d'être soignées, elles puissent le faire dans de bonnes conditions et pas en se disant « oh là là, si je m'arrête, en fait, tout s'effondre ».
Dans cette proposition de loi, également le principe d'un guichet unique départemental pour orienter les agriculteurs en souffrance, est-ce que ça vous paraît pertinent, ce guichet unique ?
Oui, nous on pousse à ce que ça existe, mais on pousse à ce que, en fait, on intègre le fait que derrière les problèmes de mal-être et de santé mentale, il y a plein de raisons qui sont diverses. C'est pas qu'une question de santé, en fait. Il faut répondre à des situations de détresse, il faut que les gens soient pris en charge. Mais derrière tout ça, comme je disais, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes administratifs, c'est des problèmes parfois de choix d'activité. Ça peut être plein d'exemples. Hein. Un exemple, nous, là, en Île-de-France, on a récemment une situation d'un jeune qui est en maraîchage, qui est en Seine-et-Marne, et qui a repris une activité familiale, et en fait, qui me dit, moi, je m'en sors plus. Enfin, c'est-à-dire que j'ai repris la ferme de la famille. Pendant 40 ans, ça fonctionnait, mais en fait, ça fonctionne plus maintenant. J'arrive plus parce que le marché est plus le même, etc. Donc, en fait, derrière sa situation de mal-être, qu'elle exprime vraiment, on sait qu'il y a un problème pour l'accompagner à essayer de trouver d'autres débouchés. Par exemple, peut-être que son activité de maraîchage, elle va plus l'amener à Rungis comme elle le faisait. Elle va essayer de trouver des AMAP, des lieux où elle va pouvoir le vendre en direct à un meilleur prix. Du coup, ça va rétablir un peu sa situation financière. Donc, c'est plein de choses. C'est pour ça que le guichet unique, c'est bien, mais il faut que ça puisse répondre à plein de choses. Voilà. Et nous, on a une approche à solidarité paysan qui est un accompagnement qu'on appelle global. C'est-à-dire qu'on, en fait, les gens nous appellent sur plein de problèmes. Et puis, on va essayer d'accompagner de manière plus humaine possible, parfois pendant des années, les gens pour essayer de régler un petit peu les problèmes les uns et les autres et les accompagner aussi à retrouver un peu la fierté de leur métier.
Merci beaucoup. On va se faire une petite pause musicale. On va écouter Wiz de Coucou Chloé et on revient juste après.
Let it go. wanna spend the night, right? Wanna be me and be mine, right? Gotta get high, get a fly. Why? I get high for one last time, right? Baby, wanna spend the night, right? Wanna be me and be mine, right? Gotta get high, get a fly. Why? I get high for one last time, right?
You get high, not the first time. Letting go.
Vous avez écouté Wiz de Coco Chloé, vous êtes sur Radio Campus.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il est 19h36 et vous reprenez Hugo et Francesca. On accueille Jérôme Martinez pour parler du quotidien des agriculteurs. Je vous laisse la main.
Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des sentinelles agricoles, donc, qui étaient composées de bénévoles. On parle dans les textes, dans les articles, par rapport à la loi, on demande à ce qu'il n'y ait pas des parties prenantes pour accompagner les agriculteurs. Pourquoi est-ce qu'on demande ça ?
Nous, on est très attentifs à ça parce que, en fait, le monde agricole, c'est un monde où il y a plein d'enjeux économiques. Et en fait, les agriculteurs, ils peuvent être en contact avec des fournisseurs. Hein, d'intrants, d'engrais, de matériel, etc. Ils peuvent être en contact avec des banques à qui ils empruntent de l'argent, à qui ils doivent de l'argent. Ils peuvent être en face avec des comptes de services sociaux qui vont leur demander des comptes, hein, etc. Et donc, en fait, il y a plein d'intérêts économiques. Et donc, en fait, souvent, alors il y a eu quand même comme ça le mouvement de former des gens à devenir des sentinelles, c'est-à-dire à détecter le mal-être. Mais c'était les mêmes personnes qui allaient pouvoir aller voir les paysans en disant « vous devez nous régler la facture ». Donc, nous, ça nous pose effectivement un certain nombre de questions. On peut comprendre que quelqu'un, même s'il est en situation d'être un créancier, il peut détecter une situation de détresse, mais est-ce que c'est la bonne personne pour accompagner ? On ne le pense pas. Donc en fait, on est plutôt, nous, très attentifs à ce que y ait un accompagnement qui soit le plus désintéressé possible, que ce soit des gens qui soient extérieurs à ce milieu-là, le plus possible pour pouvoir... pas tout mélanger, quoi. Voilà. Et c'est là-dessus que nous, on est un peu critiques, et souvent, on est aussi un peu critiqués, parce qu'on est dans le monde agricole, peut-être là aussi, pour secouer un certain nombre de choses, parce que c'est un monde qui, comme beaucoup, aime beaucoup se régler ses problèmes entre soi, ce qui n'est pas forcément toujours la bonne chose. Et donc, nous, on essaie de dire, attention, voilà, l'accompagnement des personnes, ça peut pas être compatible avec le fait d'être quelqu'un qui va attendre de l'argent, en fait, du paysan, de la paysanne, qui peut pas payer ses factures.
Bien sûr. Avez-vous remarqué d'autres, ce que j'appelle ça un angle mort finalement, est-ce que vous avez repéré d'autres angles morts dans ce texte justement qui peut desservir
Alors, ce qu'il faut comprendre, et encore une fois, c'est lié à la spécificité du monde agricole, c'est un monde où il y a des instances, il y a des chambres d'agriculture, il y a effectivement tout un écosystème en fait, d'accompagnement des agriculteurs, dont on sait en fait, qu'il est beaucoup critiqué aujourd'hui. Enfin, si on se préoccupe un peu du monde agricole, on voit bien qu'il y a plein de visions différentes de l'agriculture, il y a des syndicats qui ont des positions qui sont très tranchées, il y a un courant dominant dans le monde agricole depuis longtemps qui veut aller vers une agriculture très intensive, très industrielle, avec beaucoup moins d'agriculteurs, mais en gros des grosses firmes d'agriculture, hein, comme ça existe dans certains pays. Hein. On n'est pas là encore en France, mais il y a une tentative d'aller un peu vers là. C'est ce qu'il y a derrière la loi du plomb, c'est ce qu'il y a derrière un peu tout ce mouvement-là qui veut avoir moins de fermes, très grosses, très industrialisées. Et donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'accompagnement des personnes, ils puissent respecter aussi les choix d'agriculture. C'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement... de dire à des gens qui ne sont pas rentables parce qu'ils sont trop petits, il vaut mieux arrêter et puis on va revendre tes terres à quelqu'un qui a besoin de s'agrandir. Nous, ce n'est pas l'option qu'on défend. On continue à penser que, il faut beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices installés dans les territoires pour avoir des territoires vivants et pour avoir une diversification de l'agriculture, maintenir la biodiversité, enfin, tout ce qu'il y a derrière, en fait, le fait d'avoir une agriculture vivante. Et que ça implique que, du coup, dans ces dispositifs, l'accompagnement que se proposait, ils permettent à des gens de pouvoir avoir cet accompagnement-là. S'ils ont envie de rester dans une petite agriculture maraîchère, on va essayer de travailler pour ce qu'ils puissent vivre de ça. Et pas de leur dire, il faut que tu investisses dans 14 serres, t'achètes 3 tracteurs, et là, ça va aller beaucoup mieux. Voilà.
Autre Autre sujet brûlant, en juin 2025 en Savoie, on détecte pour la première fois en France la dermatose nodulaire, contagieuse bovine, donc une maladie virale qui touche les bovins. Le salon de l'agriculture aura lieu cette année sans bovins et peut-être même sans animaux du tout. Comment cette épidémie elle a impacté les agriculteurs ?
Elle les a beaucoup impactés, alors dans les territoires touchés, hein, ça n'a pas été le cas partout. Aujourd'hui, c'est en gros la Savoie et puis beaucoup l'Occitanie, hein, les Pyrénées, etc. Pour l'instant, elle est à l'état latence, mais en même temps, on est en plein hiver. Et en fait, cette maladie, elle se transmet par les insectes, par les mouches. Donc en hiver, ça va. On verra au printemps comment ça va se passer. Elle a impacté parce que déjà, ça a entraîné des mesures assez autoritaires d'abattage total de troupeaux. Donc c'est humainement très compliqué pour les éleveurs d'accepter ça. Il y a eu le sentiment que, en fait, cette politique-là, elle n'était pas du tout discutée, négociée avec les personnes, qu'en gros, on leur imposait ce dispositif. Et il y a eu le sentiment chez beaucoup d'agriculteurs qu'en fait, cette décision-là, elle a été prise uniquement pour garantir l'export de certains, c'est-à-dire en gros les gros exportateurs de bestiaux, et qu'en fait, pour qu'ils puissent continuer à exporter, il fallait que la France éradique totalement et très rapidement la maladie. Et donc, en fait, comme il y a eu le sentiment qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas d'espace de discussion, et que ces mesures étaient assez dures et humainement très dures à vivre, hein, nous on accompagne des gens qui ont été concernés par les abattages, bah, c'est 30-40 ans de travail qui est disparu du jour au lendemain, parce qu'on fait disparaître votre troupeau, quoi. C'est un animal, ça ne se remplace pas comme ça. Il y a des génétiques, il y a des adaptations de races sur des territoires, etc. Donc ça a provoqué énormément de mouvements de colère. Et cette colère-là, elle n'est pas encore retombée. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui va se passer au printemps. Mais en gros, on sait que si ça redémarre ailleurs, il risque d'y avoir encore des grosses mobilisations. Parce que tout ça s'ajoute à d'autres. Ce n'est pas la première, en fait. Hein. Le risque sanitaire dans le monde agricole, il est important, il est de plus en plus important. Parce que dans le phase de dérèglement climatique, on sait que ces maladies-là, elles vont tendance à se multiplier dans les temps à venir.
Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'abattage massif aujourd'hui pour gérer les épidémies ?
Oui, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'expérimentations qui sont faites dans d'autres pays qui ont réglé les choses autrement. Voilà, de l'abattage ciblé, de la vaccination préventive de tous les animaux. Ce qui a été demandé hein, par beaucoup de syndicats en disant si on vaccine préventivement et si on cible, si on suit, en fait, on saura comment on peut régler cette question-là. Ça n'a pas été la voie qui a été suivie, ça a été très mal compris, en fait, alors que ça a pu être le cas sur d'autres crises sanitaires. Donc, en fait, il y a un enjeu, mais même quand on discute avec les ministères, ils nous disent, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas forcément répondre à ce type de crise sanitaire, parce qu'elles n'existaient pas avant, pas de cette ampleur-là, et qu'aujourd'hui, on est à peine au début d'essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive dans toutes ces maladies qui se transmettent et qui arrivent d'autres territoires, hein, parce qu'on sait que la dermatose, elle est venue du sud de l'Europe, elle a transité par la Sardaigne. Aujourd'hui, on sait que c'est le marché international des bestiaux qui a développé cette maladie, de la même manière qu'il y a d'autres maladies qui sont développées. Je veux dire, si on prend les humains et on prend le Covid, il n'est pas en France, il est venu d'un autre continent, et c'est les déplacements et les voyages qui ont fait ça. Et c'est la même chose pour les animaux, et c'est la même chose pour même le végétal aujourd'hui, puisqu'il y a des maladies qui touchent des filières entières. Donc on prend l'olive aujourd'hui dans le sud de la France, en fait, ils sont concernés aussi par des maladies qui viennent d'ailleurs. Donc on ne sait pas aujourd'hui répondre. Donc oui, il y a un temps nécessaire aujourd'hui qui va être pour comprendre d'où viennent ces maladies, comment on peut les prévenir et comment on peut faire autrement que simplement d'éradiquer des filières et de mettre des éleveurs aujourd'hui sur la paille.
Tout à l'heure, on parlait du salon d'agriculture. C'est aussi un lien entre les citoyens et les agriculteurs. Enfin, c'est un lieu en tout cas où peuvent se rencontrer. Alors entre ce qu'on vient de dire, le dermatose nodulaire, Mercosur, on a eu aussi la loi du plan, la grande mobilisation. Diriez-vous qu'aujourd'hui, l'agriculture et les citoyens sont en train de se réconcilier ? Comment ils l'interprètent ça ?
C'est compliqué à dire. Hein. Le salon d'agriculture, c'est une belle vitrine. Hein. Mais qui ne représente pas grand-chose de l'agriculture, malheureusement. C'est très joli, on est content. Moi, je suis allé depuis que je suis tout petit, je vais voir les vaches, c'est merveilleux. Mais est-ce que ça représente vraiment l'agriculture ? Je ne pense pas. Je pense que... Alors, il y a une réconciliation d'une partie, c'est-à-dire qu'il y a les gens comprennent peut-être que le monde agricole, il n'est pas uniforme, qu'il y a de tout aujourd'hui dans ce milieu-là, qu'il y a des gens qui construisent des choses et puis d'autres qui sont dans un modèle qui n'est pas forcément très agréable. Bref, il y a beaucoup d'interrogations, je crois. Et en fait, ce qui va peut-être renouer le lien... Et nous, on est assez attachés à ça, c'est la question de ce qu'on mange, en fait. L'entrée, c'est l'alimentation, en fait. D'essayer de comprendre d'où vient ce qu'on mange, Qu'est-ce qui fait qu'on mange sainement et qu'en même temps, ça garantit que des gens produisent et vivent dignement de leur métier? En fait, c'est aujourd'hui tout ce lien-là qui est en train de construire des choses. Je pense à toutes les expérimentations, évidemment, qu'on connaît, hein, les circuits courts, les AMAP, mais aussi toutes les expérimentations aujourd'hui dont on commence à parler sur la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, tout ce qui est en train de se passer pour faire que les citoyens se réapproprient l'alimentation et comprennent un peu les cheminements qui vont de la personne qui produit à ce qu'ils mettent dans leur assiette.
C'est justement une action qui peut aider, on parle de problèmes économiques, c'est aussi une action qui peut aider les agriculteurs, le fait que le choix des citoyens de produits à impact, pour, c'est à nous de sauver notre souveraineté alimentaire. Et justement, pour sensibiliser par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous dire le salaire moyen de l'agriculteur ?
Alors c'est très compliqué parce qu'en fait ça dépend vraiment des filières en fait. Hein, on est alors ce qu'on sait aujourd'hui c'est que le taux de pauvreté dans le monde agricole est de 18%. C'est le taux le plus important. C'est la catégorie socioprofessionnelle la plus touchée par le taux de pauvreté. Donc il y a ça et de l'autre côté il y a effectivement une minorité d'agriculteurs qui vivent très très bien de leur métier. Donc il y a entre les deux il y a énormément de choses. Il y a des filières qui vivent pas bien. Effectivement le maraîchage, l'élevage, j'ai déjà parlé passé. Il y a aussi des modèles d'agriculture qui ont beaucoup de difficultés et qui en même temps sont les plus intéressants écologiquement, c'est tout ce qui est polyculture, c'est-à-dire avoir une ferme où on a plusieurs activités. Bah aujourd'hui, c'est ce qui est le plus protecteur et c'est souvent ce qui donne le moins de revenus, mais je ne peux pas vous dire un revenu moyen parce qu'en fait, c'est très aléatoire et ce ne serait pas correspondant à toute la diversité du monde agricole. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, ce qui est le propre de beaucoup d'artisans et d'indépendants, hein, ce qu'on touche à la fin, en fait, c'est ce qui reste.
Exactement.
Et puis, s'il ne reste rien, on ne touche rien. Voilà. Et donc, ça reste un milieu qui est aujourd'hui soumis à beaucoup de pauvreté. Je vais te parler de taux de pauvreté, mais on sait qu'il y a à peu près 30 000 aussi bénéficiaires allocataires du RSA dans le monde agricole. Ce qu'on sait moins, c'est que voilà, le RSA, ça touche aussi beaucoup de familles agricultrices. Donc voilà, il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup de précarité.
Une dernière question avant de se quitter. Dans un monde parfait, comment est le monde agricole ?
Le monde agricole, dans le monde parfait, c'est un monde déjà où on a regagné beaucoup d'agriculteurs. Il y a près de 400 000 et il y a beaucoup d'organisations qui disent qu'il faudrait qu'on revienne à 1 million d'agriculteurs, ce qui est tout à fait possible hein, en fait. Hein. Favoriser l'installation des femmes en agriculture, travailler sur la question d'accès au foncier, c'est-à-dire au terrain, dont on sait aujourd'hui que c'est une grande difficulté pour des gens qui veulent s'installer, hein, avoir un terrain pour cultiver, etc. Donc c'est réinstaller les personnes, réinstaller des familles, des femmes. Travailler sur la question des circuits alimentaires les plus courts possibles pour éviter aussi que tout l'intermédiaire de la grande distribution et la transformation alimentaire fasse que vous mangez des trucs dont on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc il faut relocaliser et retravailler sur toutes ces filières-là. Et puis en profiter pour essayer de réfléchir, et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'agriculture, sur le modèle d'agriculteur qu'on veut défendre. Un modèle qui permette de reconnaître aussi, d'une part, le fait que les gens vivent bien, mais aussi le bien-être animal, la santé des sols. En fait, c'est tous ces modèles d'agriculture, ils existent. En fait, aujourd'hui, on sait faire. On sait faire de l'agriculture, on sait faire de l'agroécologie, on sait faire du bio, on sait faire des choses qui permettent d'entretenir les sols. Aujourd'hui, il faut les encourager. En fait, c'est des politiques publiques qui vont dire nous, on va favoriser l'installation de petits, de familles, de jeunes, de femmes en agriculture pour qu'elles puissent vivre dignement de leur métier et que on va favoriser. Par plein de manières, le fait que toutes ces installations-là, elles puissent vivre. Voilà, travailler avec des cantines, travailler avec de la restauration, faire des circuits de distribution qui vont des périphéries lointaines de nos villes jusqu'au centre de nos villes. En fait, c'est un ensemble de choses aussi.
Merci beaucoup, Jérôme Martinez.
Je peux juste finir avec ça. Et à nous de jouer notre rôle de citoyen, c'est d'acheter français et de consommer français.
Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu. Maintenant, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
C'est à toi.
L'émotion reste vive à Sanary-sur-Mer après l'agression au couteau d'une professeure survenue hier soir dans un collège de la commune. L'enseignante d'art plastique a été attaquée par l'un de ses élèves, un collégien de 14 ans. Interpellé peu après les faits, l'adolescent a reconnu en garde à vue que son geste était prémédité. Il a également exprimé des regrets. Gravement blessé, la professeure avait vu son pronostic vital engagé dans la soirée. Son état de santé est aujourd'hui stable, mais encore préoccupant. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu ce matin dans l'établissement. Il a annoncé qu'une cellule psychologique allait être mise en place aujourd'hui et resterait mobilisée aussi longtemps que nécessaire. 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Voici ce qui requit contre Marine Le Pen dans le cadre du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. Pour rappel, la présidente du RN est poursuivie pour détournement de fonds publics, accusée d'avoir utilisé des assistants parlementaires européens à des fins partisanes. Si les réquisitions étaient suivies par la cour d'appel, dont la décision est attendue cet été, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter à l'élection présidentielle de 2027. Et puis Jack Lang se dit blanc comme neige. L'ancien ministre de la Culture a affirmé ce mercredi ne rien risquer, alors que son nom apparaît dans plusieurs documents rendus publics par la justice américaine dans le cadre de l'affaire Epstein. Jack Lang reconnaît avoir rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises au début des années 2000 dans un cadre qu'il qualifie de mondain et professionnel. Il assume ses liens tout en affirmant n'avoir jamais eu connaissance des agissements criminels de l'homme d'affaires, pourtant déjà condamné aux États-Unis. Il exclut par ailleurs toute démission de la présidence de l'Institut du Monde Arabe. Autre information à retenir ce soir, la proposition de loi portée par la députée Danielle Simonet visant à permettre aux maires de réquisitionner des logements vacants pour loger des personnes sans domicile a été rejetée en commission d'affaires économiques. Le texte n'a pas été adopté à la suite du vote des groupes de droite, d'extrême droite et de la majorité présidentielle. Cette proposition était pourtant soutenue par plusieurs associations de défense du droit au logement et par des élus locaux qui dénonçaient la pénurie de logements accessibles. Le texte doit désormais être examiné en séance publique le 12 février prochain. Et pour finir ce flash info, un mot de cinéma. Le Marsupilami est de retour sur grand écran à partir d'aujourd'hui. 14 ans après le film d'Alain Chabat, c'est Philippe Lachaud qui propose sa propre version du célèbre animal imaginé par André Franquin. Pas une suite à proprement parler, mais un film qui se déroule dans le même univers. Avec un clin d'œil appuyé, Jamel Debbouze reprend son rôle de Pablito Camarón. Cette fois-ci, l'histoire se concentre sur le bébé Marsupilami, embarqué malgré lui dans une aventure chaotique entre l'Amérique du Sud et la France. Le Marsupilami version 2026 est à découvrir en salle dès ce mercredi.
Merci beaucoup. Et maintenant, on va marquer une petite pause musicale avant la chronique de Gauthier. On va écouter Monumental de Only the Poet.
Yeah, wasted. Guess you were never patient. Congratulations on your ready to replace one. You moved the furniture out, but I don't get rid of my ghost in the house. You said you're better without, just another lie that you're telling now. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. Overlooking me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. Overlooking me was monumental. I've been taking time to get my head straight, and you've been chasing, brushing into something, thinking that I stopped the aching. Changing the sheets will be slow, but I don't get rid of my ghost in your bed. You said you're better without, just another lie that you're telling now. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. Overlooking me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. Overlooking me was monumental. Excuses, the truth is losing me was monumental. Excuses, the truth is losing me was monumental.
Vous avez écouté Monumental de Only the Poet. C'est maintenant l'heure de la seule, l'unique chronique de Gauthier.
La matinale de 19h.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 76e chronique sur ces ondes et aujourd'hui nous sommes le 4 février 2025, ça signifie que c'est l'anniversaire à 3 jours près de ma toute première chronique sur Radio Campus Paris.
Wouhou !
C'est l'anniversaire à 3 jours près de ma première chronique sur Radio Campus Paris.
Bravo. Bah, c'est extraordinaire.
Merci pour votre incroyable spontanéité. Donc effectivement c'est mon anniversaire, alors petite chanson pour fêter ça. D'ailleurs je vais te demander Diane de meubler un petit peu parce que j'ai oublié mon petit accessoire.
Gauthier a oublié son ukulélé mais il est en train de se préparer, il s'assoit, il est disponible.
Allez, c'est bon.
Il est prêt.
Je suis prêt. Pour l'occasion, pour mon anniversaire, j'ai ramené mon frère. Alors on s'était un petit peu embrouillé les 3 dernières fois que je l'ai invité sur cette antenne, mais on s'est rabiboché parce qu'on a commencé à faire de la course automobile ensemble. Donc salut Gauthier, t'es prêt ?
Salut Gauthier, je suis très heureux d'être là. Joyeux anniversaire à tes chroniques et oui, je suis prêt.
Eh bah si t'es prêt, c'est super, je te laisse me donner le signal quand tu veux.
Ok, et ben c'est parti. 1, 2, 3, 4.
Aujourd'hui, Gauthier, c'est ton anniversaire sur Radio Campus Paris. Depuis
3 ans
que tu es là, tu as fait
76
chroniques de temps passé déjà depuis le
1er février 2023.
Et en
3 ans
derrière, tu en as déclenché environ
2049.
Aujourd'hui, Gauthier, c'est ton anniversaire sur Radio Campus Paris. Depuis
3 ans
que tu es là, tu as fait
76
chroniques, tu as rencontré les bénévoles qui étaient tous fantastiques. Comme c'est par vrai. Exemple, il y a Diane qui est simplement merci. Magnifique.
Ouais, d'ailleurs, Diane, si tu pouvais lui rembourser le ticket de Transilien Paris-Taconia-Richemont.
Non,
tu t'avais payé il y a 6 mois parce
Gauthier,
que t'étais en galère de Navigo. Ce serait sympa parce
Gauthier,
que, crois-moi, il fait le beau devant toi, mais à chaque fois qu'on est en entraînement, il en parle.
Arrête, Gauthier, non, rien, t'inquiète, rien, tu peux ne pas me rembourser le ticket de Transilien Paris-Taconia-Richebourg, c'est pas grave.
Mais Gauthier, je suis ton grand frère, je dois quand même te défendre.
Ouais, peut-être, mais là tu me fous la honte. Alors s'il te plaît, on reprend la chanson et on continue, ok?
Ouais, okay,
on y va,
allez,
c'est bon.
1, 2, 3, 4.
Aujourd'hui, Gauthier, c'est ton anniversaire sur Radio Campus Paris depuis...
3 ans.
Que tu es là, tu as fait...
Gauthier?
Oh. 76.
Chronique. Gauthier, ça va?
Ouais, tout va bien, ouais. Je me fais rogner par mon propre frère, mais tout va bien, t'inquiète.
Mais Gauthier, on avait dit qu'on garderait ça pour nous, qu'on resterait bienveillant à l'antenne. Putain, t'es incroyable, toi, c'est toujours la même chose, on peut jamais te faire confiance.
Okay, donc maintenant je vois, donc c'est ma faute.
Mais c'est pas ça.
Tu peux me rappeler qui s'est démené des années pour que tu sois là où tu es aujourd'hui?
C'est bon.
Qui a travaillé d'arrache-pied pour que tu puisses participer au GP Explorer de Squeezie?
Arrête, c'est bon.
Hein? Tu sais quoi?
Ah ouais, c'est comme ça? Frérot, tu viens de signer ton arrêt de mort là, tu vas voir. Attends, viens voir par là. Voilà. Voilà, prends ça, c'est bien fait pour toi, c'est tout ce que tu mérites de toute façon. C'est pour ça que maman, elle te montrait jamais la cassette de Bonne Nuit les Petits pour t'endormir le soir. Tu pensais que c'est parce que t'aurais peur? Eh ben non, c'est tout simplement que... encore une fois, je suis vraiment sincèrement désolé pour que vous ayez eu à assister à ça. Bon anniversaire à moi quand même. Normalement, mon frère ne devrait plus poser de problème. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
Merci Gauthier. Et c'est vrai, je suis vraiment, je t'ai pas remboursé ton ticket de Navigo. Je suis désolée. C'est horrible. Et merci à tous d'avoir suivi cette matinale. Ce soir, la matinale était en compagnie de Francesca et Hugo pour l'interview. Ils ont reçu Jérôme Martinez. Alice a reçu Thibaut Brac pour le Zoom. Raphaël a fait notre flash info. Anaïs a fait la chronique. Gauthier a fait une extraordinaire chronique encore une fois. Et c'était Aude à la réalisation en compagnie de Mustapha. Maintenant, merci à Jeanne et Aude et Aude pour les coordinations. Et maintenant, c'est le monde zygomatique. Avec Pierre Ninet.
Pierre Ninet. Sinon ça marche pas. Bonsoir et bravo.
Ouais, bravo.
C'était super, c'est vraiment mon émission préférée.
De toutes les matinales, c'est fou quand même. Allez, c'est parti.